Star Wars en direct remercie ses partenaires Mint in Box, Planet Star Wars, Star Wars Universe, le groupe Star Wars Geeks Québec, la boutique Kaya et la convention Génération Star Wars et Science-Fiction.
Star Wars en direct depuis plus de 20 ans, la voix du fandom Star Wars pour cette édition littérature. Aujourd'hui, on va parler d'un album sorti chez Panini Comics, l'album Obi-Wan. Et je suis avec Jean. Salut Jean.
Salut Loïc. Bonjour. Salut. À tous.
Voilà.
En forme.
Bonjour
ça
à tous.
Ça fait longtemps.
Bah oui, ça fait longtemps parce que je vous avais annoncé qu'en fait je ne faisais plus d'émissions autour des comics parce que j'avais globalement arrêté leur lecture. Or, en fait, j'ai reçu cet album de chez Panini, donc l'album Obi-Wan, qui est sorti au mois de juin. Donc déjà, je tenais à les remercier sincèrement pour cet envoi auquel je ne m'attendais pas. Et puis, on va pouvoir en débriefer un petit peu ce soir, en discuter ensemble. Je fais vraiment cette émission avec envie, parce que vous allez découvrir nos critiques tout à l'heure, mais c'est pas... Ce n'est pas contraint et forcé. Ce n'est pas contraint et forcé que je suis là ce soir. Je le ferai avec grand plaisir. Avant de commencer, on va tout de suite afficher, vous rappeler notre partenaire, le groupe Star Wars Littérature Québec, que vous trouverez sur le réseau Facebook. On vous invite à les suivre si vous êtes fan de littérature Star Wars. Et puis, on vous invite évidemment à, comme d'habitude, faire un petit tour sur notre boutique, où vous pourrez nous soutenir, nous aider avec de magnifiques t-shirts à l'effigie de Star Wars en direct, qui sont tous évidemment, comme vous le savez, faits par notre suprême leader, Danny. Et voilà, donc ça c'est pour nos petites annonces habituelles, voilà. Et maintenant on va faire notre petit traditionnel WhatsApp qui peut-être a manqué à certains. Et donc Jean, j'ai envie de te demander, quoi de neuf Star Wars en ce moment ?
Énormément de choses. J'ai une liste grande comme le bras là, de WhatsApp.
Alors,
Star Wars.
Pas sur une heure.
J'ai juste sélectionné 2-3 trucs comics. On va rester dans la littérature comics. J'ai juste commencé. Donc il y a la mini-série de Mandalorian saison 2 qui a commencé en comics, en VO là. Comme pour la saison 1, du coup, tu reprends les épisodes de la série retranscrits en comics. Donc l'intérêt est plus ou moins limité, on va dire quoi. Si on est fan de la série, je pense que ça. Ça pourrait être intéressant. C'est la même équipe créative, c'est Rodney Barnes donc, qui retranscrit la série en comics. Par contre, c'est illustré par le même illustrateur, c'est Georges Gentil, je ne sais pas si tu te rappelles, on en avait parlé.
Très compliqué, je crois, si mes souvenirs sont bons.
Ah ouais, c'est très compliqué, c'est toujours très compliqué. Alors si vous voulez rigoler, moi, j'aime bien lire cette série pour rigoler, parce qu'il y a vraiment des cabines qui sont mémorables, tellement c'est mal dessiné. Mais voilà, donc, pas ouf. Par contre, un truc bien mieux, c'est la mini-série Dark Vador Black, White and Red, et ça je sais que t'en as lu un petit peu. Donc c'est une mini-série qui est en cours en ce moment en VO, qui est au deuxième numéro, et ce sont des petites, un peu comme ce soir là, ça va être des petits numéros anthologiques. Donc c'est trois numéros par, enfin trois histoires.
Je suis pas sûr que ce soit en continuité réellement non plus.
Est-ce que c'est canon? Alors ça je sais pas.
Ça devrait. Techniquement, je vois pas trop ce que ça peut apporter en fait à la continuité. Pour info, c'est une série de comics que Marvel sort, puisqu'il y a eu d'autres numéros. Il va y avoir un Deadpool, il y a eu un Wolverine, il y en a eu quelques-uns. Voilà, j'ai pas tous de tête, mais c'est une série que Marvel aime bien faire suivre.
Ouais. Black, White and Red, je sais que DC, ils ont fait un petit peu la même chose avec Wonder Woman, Black, White and Blood, un truc comme ça.
Oui.
Il y a eu Batman aussi, enfin ouais, ils aiment bien faire ça. Et le concept est très simple, c'est juste des petites histoires dessinées en noir, blanc et rouge, hein, comme le titre l'indique. Et donc là par exemple, il y a une première histoire de Jason Aaron, le très grand Jason Aaron. C'est d'ailleurs une petite histoire qui continue dans le numéro 2, donc tu vois, c'est pas vraiment que des anthologies, il y a une petite continuité parfois. Il y a un autre numéro de Peach Momoko qui est là, juste purement visuel, où il n'y a pas de dialogue du tout, c'est juste des dessins, c'est elle qui fait le dessin. Moi je trouve magnifique Peach Momoko, mais bon, faut accrocher, c'est un style un petit peu psychédélique, un petit peu bizarre, quoi. Et pareil, ça continue sur le numéro 2 là que j'ai terminé, je crois que c'était il y a 2-3 jours. Et ouais, qui est très sympa, plus accès horreur pour certaines histoires avec une espèce de trip à la alien avec un vaisseau perdu dans l'espace et puis t'as Dark Vador qui va arriver, qui va défoncer du monstre. C'est... Moi j'aime bien, tu vois, c'est pas oufissime. Vous pouvez essayer le premier numéro si ça vous intéresse, mais moi je conseillerais à la lecture. On fera peut-être sûrement une émission quand le tome sortira en français. Mais j'aime bien le concept, en tout cas.
Pour les lecteurs VO, le premier numéro a vu un certain nombre de couvertures variantes, dont certaines sont vraiment magnifiques. Hein, donc peut-être que le contenu en lui-même n'est peut-être pas du meilleur acabit, même si ça reste très correct. Après, faut aimer. Mais par contre, les couvertures variantes, il y en a certaines qui sont absolument dantesques. Donc voilà, presque pour l'objet plus que pour l'histoire. Après, on verra comment c'est proposé en français. Je ne pense pas qu'il y ait de couverture variante, mais on peut imaginer, comme ils font souvent, comme Panini fait souvent, qu'en fin de tome, plusieurs couvertures seront proposées. Donc ça peut être sympa, en tout cas, pour le côté dessin.
Ouais.
T'as autre chose, Jean ?
Ouais, non, j'ai droit à autre chose, mais je vais laisser là pour l'instant, pour aujourd'hui, ça suffira.
Garde-toi des billes pour le futur. Et ben, moi, côté Star Wars, malheureusement, il n'y a pas grand-chose, puisque finalement, l'actualité est assez calme. Il y a très peu d'actualité, on n'a pas de série pour l'instant, Ahsoka ne sort que dans 2 mois, il n'y a pas de film annoncé, il n'y a pas de série animée, c'est assez calme. J'ai commencé hier le Vent de Trahison, le premier de la phase 2, c'est ça, Vent de Trahison,
La voix de la Dupree, c'est pas ça?
Ah oui, c'est ça, la voix de la Dupree ou la voix de la Trahison, je l'ai commencé hier soir, et ça se lit bien quand même. Franchement, ça se lit très bien. Là aussi, merci à Pocket pour ce roman. Donc voilà, c'est à peu près tout en Star Wars. Sinon, il y a eu un petit peu de 501 ces derniers temps, puisque j'avais fait quelques sorties, mais il n'y a rien de foufou.
En empereur, du coup? Toujours en empereur?
Non. Dernièrement, je suis sorti plutôt en Jedi. J'avoue que j'ai du mal à porter mon empereur avec l'âge. Qui avance, j'ai du mal à supporter le masque.
Ah oui, comme c'est vers chaud en plus, j'imagine.
C'est ça, masque. C'est ça. Alors même en température modérée, j'ai de plus en plus de mal à le supporter. Je sais pas, peut-être que je deviens claustrophobe avec le temps. Donc probablement que je vais devoir vraiment changer de costume. Moi, j'ai toujours cette armure de biker qui m'attend, mais voilà.
Il faudra que tu attendes que tu aies 90 ans pour pouvoir vraiment te maquiller.
Pour faire sortir le maquillage. Et je le garde au chaud, on ne sait jamais. Voilà, c'est à peu près tout pour mon WhatsApp. Ce qui n'est pas foufou non plus en ce moment, Jean, ce sont nos dernières émissions. Puisque, comme je le disais, l'actualité étant calme, chez Star Wars en direct, c'est calme également. Donc, on ne sait pas si en courant d'année, en fin d'année, ça va bouger un petit peu plus. Bon, évidemment, il y aura des émissions qui seront liées à la sortie d'Ahsoka. Et puis à la fin d'année de Skeleton Crew, évidemment, même si là je sais pas si on fera des débriefs hebdomadaires ou si on se contentera d'un débrief pour la série, c'est un peu tôt pour le dire. On verra le contenu. Par contre, c'est vrai qu'en ce moment, voilà, c'est assez calme. Alors, est-ce que tu peux nous faire quand même un point sur ces 3 dernières émissions habituelles?
Oui. Et le dernier Quad 9, notre rendez-vous Star Wars tous les mercredis, il s'est arrêté depuis le 7 juin. On n'a pas fait depuis le 7 juin, ça fait quoi? Ça fait une vingtaine de jours. En raison de ce disette d'informations Star Wars dans ce moment. Et du coup, on a eu donc un Star Wars littérature. Notre dernière review avec Francis sur le comics Han Solo et Chewbacca.
Oui, et je vous conseille.
Franchement, c'était
pas le comics, l'émission.
Oui, non, du coup, t'as pas
le comics.
Ah, non. On te conseille d'avoir
pour la fête des pères, mais finalement, j'ai lu un comics autour de Spider-Verse. Parce que mon fils savait que j'avais écouté le podcast, donc il s'est dit, je vais pas lui prendre le comics puisqu'il a écouté l'histoire. Donc, j'ai lu Spider-Verse qui était très bien aussi.
Et surtout qui vient de sortir là, il y a quelques jours, c'est le Star Wars en direct en musique sur les influences de John Williams. Donc là, on a Frédéric et Odd qui retrace la carrière de John Williams, ou plutôt les influences de John Williams qui l'ont amené à créer la musique de l'épisode 4. Notamment, il se focus surtout sur la musique de l'épisode 4. J'ai écouté cet épisode il y a quelques jours et il est très très bon. Je vous conseille grandement l'écoute, mais si c'est pas déjà fait, je sais que beaucoup de nos auditeurs sur le WhatsApp en ont déjà parlé et il est beaucoup aimé. Donc ce spin-off musique.
Sur le Discord.
Le Discord, pardon.
Mais oui, effectivement, Jean, tu fais bien de le rappeler, c'est des émissions qui sont très qualitatives pour qui aime la musique, hein, évidemment, qui aime la musique de Star Wars. Je l'ai pas fini celle-ci. J'ai déjà entendu des émissions autour des inspirations slash plagiat de John Williams.
On va pas faire le débat ce soir.
Et voilà, justement. Mais c'est vrai que je l'ai pas fini et j'ai hâte de la finir. Moi, je voudrais en profiter. Alors, c'est pas du tout Star Wars en direct, mais il y a une chaîne YouTube. Si vous aimez la musique, qui prépare une série d'émissions sur toute la musique de la saga Star Wars. Donc, il y aura 9. C'est pour les épisodes numérotés. Donc, 9 émissions. Autour de ça, c'est la chaîne de Tilou, TY2ZALOU. Tilou qu'on va peut-être recevoir hein, dans Star Wars en direct. On n'est pas calé encore, mais on lui a fait cette proposition pour qu'il vienne nous parler un peu de ce méga projet, de comment on conçoit un projet de 9 émissions YouTube autour de la musique de Star Wars et qui peut être très intéressant. Donc voilà, et si ça vous intéresse, je vous invite. Je vous invite vraiment à guetter sa chaîne et à voir quand est-ce que ça va sortir. Alors bien sûr, sur sa chaîne, il n'y a pas que du Star Wars, hein, il y a beaucoup d'autres musiques de films et avec des épisodes que moi, personnellement, je trouve tous plus intéressants que les uns que les autres. Donc voilà, ça c'était pour la petite parenthèse. Et puis ben, Jean, si tu as fini, ben, je te propose qu'on passe en hyperespace.
Ok, on y va.
Oh crap! Prepare to jump into hyperspace on my mark.
All right, stand by.
Chers auditeurs, avant d'attaquer, il faut que vous sachiez que nous avons eu un débat avec Jean avant cette émission pour savoir de quelle façon on allait organiser la review. Parce qu'en fait, cet album est composé de 5 histoires plutôt anthologiques, même si elles ont un fil conducteur, mais qui vont raconter 5 périodes de la vie d'Obi-Wan, 5 histoires de la vie d'Obi-Wan. Et vous le savez peut-être si vous nous suivez depuis un moment, mais les albums anthologiques, on les a toujours plus ou moins reviewés de la façon où on fait un épisode, une critique, un épisode, une critique, ce qui nous a donné parfois, par le passé, des épisodes un peu à rallonge. Et donc on a un peu débattu, et finalement on a décidé de garder ce format. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y a des personnes qui nous écoutent et qui ne vont pas lire ce comics, et qui vont venir en fait à la pêche aux infos, savoir ce qui se passe quand même. Et donc il serait un peu peut-être difficile de faire des reviews où on vous donnerait un résumé des 5 épisodes et puis ensuite où on partirait un peu à droite à gauche. Donc finalement on a décidé de structurer tout ça, on va vous faire un épisode, une critique. Par contre on va pas s'étendre sur chacun des épisodes pour pas vous faire une émission à rallonge. Voilà. Et donc Jean, bah, si tu veux bien attaquer avec les infos de ce comics, okay. De cette première histoire, etc. Du fil rouge peut-être.
Okay. Ouais, déjà, ben, tu l'as dit, hein. Là on a un album concept, on va dire, donc on a 5 numéros retraçant 5 périodes de la vie d'Obi-Wan avec, donc tu disais, un fil rouge. Donc le fil rouge, c'est le vieil Obi-Wan version Alec Guinness, donc, qui, lors d'une tempête de sable sur Tatooine, va se réfugier dans sa hutte et qui va se mettre à écrire ses mémoires. En gros, c'est ça. Et,
la suite de son journal, hein.
La suite de son journal, effectivement, tu fais bien de le rappeler parce que ce n'est pas la première fois qu'on voit Obi-Wan en comics. Hein. Bah déjà, on avait eu cette mini-série dans 5 numéros, Obi-Wan et Anakin, hein,
oui.
Par Charles Soule d'ailleurs, et Keke Kito. Oui, oui. Moi, j'ai beaucoup aimé, je sais pas,
oui.
Toi et
moi, j'avais
toi
bien aimé
aussi.
Ouais.
Ouais, vous avez bien aimé aussi.
Ouais, ouais.
Et il y avait eu donc ces fameux journaux d'Obi-Wan qui étaient sortis, je crois, l'année dernière pendant la série Obi-Wan, d'ailleurs, je
Alors,
crois.
Alors, c'était des épisodes en fait, qu'on appelle backup, qui étaient en cadeau en fait, dans certaines issues VO. Qui était publié dans les volumes Star Wars, je crois, de Panini, et que Panini Exactement. A collecté sous la forme d'un journal, qui était d'ailleurs un très bel objet, très très sympa.
C'est ça. Sauf que c'était pas vrai, bah, vu que c'était des histoires qui étaient déjà publiées dans la revue Star Wars, c'est un peu une redite. Là, ils ont juste recollecté ces histoires d'Obi-Wan qu'ils ont mis sur. C'est vrai que la cover, enfin, c'était même pas une cover, c'était ouais, la fabrication du comic, c'était magnifique, quoi. Il a sorti ça, donc c'était les fameux journaux d'Obi-Wan. Et donc là, donc effectivement, comme tu disais, il reprend ces journaux. Et d'ailleurs, ça, c'est un concept sympa, enfin, un concept que je trouve de plus en plus utilisé en ce moment, en comics en général, mais plus particulièrement en Star Wars, le concept d'anthologie avec un petit fil rouge qui suit là, tu vois. Là, je peux nommer vite fait, j'ai le One Shot Revelation là, ceux qui lisent le crossover Hidden Empire le connaissent, c'était un peu ça. Il y avait le One Shot Live Day, on en a parlé vite fait dans Han Solo Chewbacca, c'était complètement ça. Il y a la mini-série Elysian Legacy, c'était ça. Là, j'ai un One Shot High Republic, c'était ça. Dark Vador Black, White and Red, c'est un petit peu ça, tu vois.
C'est ça.
Donc, c'est assez usité. Moi, j'aime bien ce concept-là, d'anthologie, d'histoire un petit peu. Et ce qui est sympa dans ce tome-là, c'est que non seulement donc, les histoires sont plus ou moins indépendantes, mais en plus, là, comme un peu à la manière de la série Vision, ils ont pris un artiste, enfin, une équipe créative, on va dire. Ils ont pris un artiste, donc c'est le même scénariste, mais un dessinateur différent par histoire. Voilà.
Si je ne me trompe pas, le fil rouge, c'est-à-dire toutes les parties Obi-Wan vieux, sont dessinées par la même personne?
Non. Je ne crois pas. Je crois que c'est vraiment un numéro par artiste. Ouais.
Ah oui, c'est possible.
Ça fait un petit moment que j'ai lu, j'avoue, le tome. On l'a enregistré la semaine dernière, du coup. Je n'ai pas relu le tome.
Simplement. Vous
nous direz ça, on en discutera en commentaire, mais chaque numéro est vraiment dessiné par le vieil Obi-Wan est dessiné par différents dessinateurs, et c'est plutôt cool, surtout que dans le tas. Mais ce qui est cool déjà, c'est que chaque dessinateur est assez varié. Alain Guiteau, donc le fameux, donc qui officie sur la Haute République. T'as Luc Ross, pareil, le très célèbre Luc Ross, qui peut être tantôt magnifique, tantôt terrible.
Avec lui, hein.
Et puis t'as d'autres dessinateurs vraiment nouveaux dans l'univers Star Wars. T'as un dessinateur italien, là, Miracolo. T'as pour le numéro 4, t'as un Kazakhstan. Tu vois, c'est pour te dire s'ils sont allés chercher vraiment des profils divers et variés. Et t'as une brésilienne, Adriana Melo, sur le dernier numéro. Donc moi j'ai trouvé ce concept très très cool, et du coup ça change énormément. Donc après c'est à nous de juger si tu préfères tel dessinateur, mais en tout cas le concept est plutôt sympathique. Tu veux que je commence les résumés, du coup?
Oui, vas-y, on fait le premier. Alors, et puis on attaque avec notre critique de l'épisode.
Donc, pendant que Obi-Wan écrit donc ses mémoires dans sa hutte sur Tatooine, donc là on a un petit flashback sur son passé en tant que Young Link au Temple Jedi de Coruscant. Il se prépare d'ailleurs à aller sur Illum, hein, et en fait il doit aider son ami Jeren à gérer des visions cauchemardesques, et pour ce faire il va devoir briser les règles du Temple, s'échapper et se perdre dans les bas-fonds de Coruscant, justement pour sauver son ami. Voilà un petit peu le résumé du...
Voilà. Alors,
vite fait.
C'est très drôle parce que en fait, ce personnage, donc, au final, va s'échapper. Hein, il va pas mourir. C'est un enfant. Hein, ils ont 7 ans, peut-être, à tout casser.
Ouais,
et je me dis, typiquement, c'est un personnage qu'on peut revoir. Donc, puisqu'il a quand même eu un début d'entraînement de Jedi, donc c'est un personnage qu'on pourrait revoir adulte. Maîtrisant la force, mais sans être un Jedi, sans forcément être un Jedi noir, sans forcément être un Sith, et qui pourrait, pourquoi pas, être intéressant dans le futur.
C'est carrément.
Ouais,
c'est vrai que j'avais pas du tout pensé à ça.
C'est comme ça que moi je l'ai interprété à titre personnel. Et après, j'ai pas d'infos. Hein. Si ça se trouve, on n'aura pas du tout ça. Mais moi, je trouvais que ça pouvait être sympa.
En saison 2 de Obi-Wan, là, tu vois, il y a un petit personnage.
C'est exactement ce que je me disais, mais je suis pas sûr qu'ils arrivent à faire des liens comme ça, mais ça pourrait être intéressant.
Qu'ils disent pas les comics. Ouais.
Non, pas trop, quoi. Pas trop. Personnellement, c'est un épisode que j'ai bien aimé. La vie d'Obi-Wan, enfant, on la connaît pas du tout. Hein.
C'est vrai.
Je sais même pas si elle a déjà été évoquée ou vraiment vite fait. En plus, on se souvient maintenant que dans la série Obi-Wan, il nous a appris qu'il avait un frère, et avant d'être enlevé pour être amené au temple, et finalement, quelque part, est-ce qu'il n'a pas ce lien de fraternité avec cet enfant, où il se sent proche de lui parce qu'il n'est plus avec son frère, et voilà, c'est vraiment une histoire sans prétention, mais que j'ai trouvé très sympa. On a Obi-Wan qui ne respecte pas les règles, oh là là, et on n'a pas l'habitude de le voir comme ça. Voilà.
Mais malgré tout, il respecte pas les règles, mais tu vois bien qu'il y a, tu disais, ce lien de fraternité avec l'autre Jedi, tu vois bien que c'est un petit gars bien brave dès cet âge-là, donc qui fait passer l'amitié avant tout, quoi,
bien
même
sûr,
les règles du temple. Donc tu vois déjà qu'il y a les principes d'Obi-Wan qui sont déjà là dès ce plus jeune âge, et c'est vrai que je crois bien que c'est pas le récit sur l'enfance d'Obi-Wan le plus ancien qu'on ait sur le personnage.
Je m'en rappelle pas d'avant. canon, je réfléchis, mais je crois que c'est le seul, la seule mention qu'on ait. Je ne sais plus si dans le légende, il y avait des choses qui tournaient autour de ça, ça ne me dit rien.
Mais, c'est avec Qui-Gon et Anakin, Qui-Gon et Obi-Wan.
Et Obi-Wan, ouais.
Master and Apprentice, mais c'est...
Ouais, mais il est déjà plus grand.
C'est ça, il est déjà plus grand.
Et finalement, ce que je me disais, c'était qu'on pourrait peut-être même avoir Obi-Wan enfant dans la série Tales of the Jedi, hein, pourquoi pas.
Oui, pourquoi pas, c'est intéressant d'explorer ce plan-là.
Ça pourrait être sympa. Ça pourrait être sympa. Alors si, en fait, le moment où il est le plus jeune, je crois, c'était dans le roman que vous avez chroniqué l'été dernier. Comment s'appelle-t-il, celui sur ce... Il y avait Brotherhood, et puis il y en avait un qui était sorti à la même époque, où c'est Obi-Wan Padawan en couverture. Où il va sur une planète pour...
Padawan, justement, ça s'appelait Padawan. Exactement.
Ah oui, c'est ça, Padawan.
T'as raison.
C'est ça. Et je crois que c'est le moment où on le voit le plus jeune, en fait.
Plus jeune, effectivement, il a ce pan-là.
Il doit avoir moins de 15 ans, il doit avoir...
Ça devait être à cet âge-là, l'âge du comics à peu près, je ne me rappelle plus exactement. Faudrait qu'on...
Non, je crois qu'il était un peu plus vieux quand même. Il me semblait avoir autour de la douzaine, j'aurais dit.
Ben oui, parce que techniquement, il était Padawan dans le roman. Là, il est encore que Youngling. Il est sous la tutelle de Yoda. D'ailleurs, Yoda qui... Voilà. Il n'est pas encore Padawan. Et d'ailleurs, Yoda qui vit bien aimé la petite punition à la fin. Quoi. Donc, il se fait choper par Yoda quand il revient au temple. Et bam, allez, va passer de balai. C'était pas mal.
C'est ça. Même chez les Jedi.
Et dommage que... Voilà. Et dommage que Tom ne soit pas là, parce que justement, dans ce numéro, il y a pas mal d'aliens. Il y a tout un crew de mercenaires, là. Et avec des espèces de Greedo-like, des Abrak, tout ça, quoi. Donc, et plutôt bien dessiné, hein, parce que c'est encore une fois Nandito. Moi, c'est un dessinateur que j'aime beaucoup. Donc, c'est très, 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 très
alien. C'est très solide.
Ouais. Très pareil comme toi, j'ai beaucoup aimé ce numéro.
Ça fait vraiment comics, hein.
Ah oui,
je trouve. Voilà. Mais sans que l'histoire soit trop en décalage avec ce qu'on aurait pu voir dans Star Wars. Donc, moi, ça me... Après, il faut accepter l'idée que des enfants formés au temple Jedi survivent face à des mercenaires armés jusqu'aux dents. Pour moi, c'est un parti pris que j'ai accepté depuis longtemps, depuis Clone Wars, en fait, hein, où on voit des enfants résister à tout un tas de menaces. Donc, moi, je suis pas trop choqué. Voilà.
Ou même Rebels, quand tu vois un gamin tenir tête à Throne, s'en sortir. Ouais,
bien sûr.
Mais justement, en parlant de Rebels, bonne transition là, parce que le numéro 2 commence sur le vieil Obi-Wan qui se remémore son dernier affrontement contre Dark Maul sur Tatooine, passage qu'on a vu dans la très très bonne série Rebels. Ouais. Voilà, donc revoir ce moment, c'était vraiment, vraiment excellent. Puis on remonte un peu plus dans le passé en compagnie de Qui-Gon Jinn. Aux alentours de l'épisode 1, un petit peu avant peut-être, lors d'une mission sur la planète Kodia, qui est une planète minière dont une station est attaquée par une créature, et on découvrira qu'il s'agit en fait d'une race connue sous le nom de Defel. Donc les Jedi arriveront à sauver les derniers survivants, dont ce fameux Defel, mais Obi-Wan sera rendu temporairement aveugle lors de la mission. Ça, c'était assez surprenant.
Là aussi, un petit côté Rebels, côté canon.
Ah oui, tiens, j'avais pas du tout pensé, tu vois. Parfois, c'est bien de discuter avec toi des times. C'est vrai que j'ai pas du tout pensé au côté Canon, sauf que Canon, c'est un peu définitif, je crois.
Oui, là, bien sûr, ça, évidemment.
On sait que...
Évidemment. Mais moi, j'ai pensé à Canon, parce que finalement, on n'a pas eu beaucoup de personnages aveugles dans la saga Star Wars. Y en avait un en légende, c'était le général Koda, je ne sais plus comment il s'appelait, Ram Koda, je crois, et... En canon, ben pour moi, il n'y a que Kanan qu'on a déjà vu avec. Voilà.
Est-ce que je sais que le Jedi Food, je sens la croisade, il n'était pas aveugle. Non, je ne me rappelle plus.
Jorus Sebaoth.
Jorus, voilà. Donc, ouais, t'as bien aimé ce numéro 2
Alors, c'est rigolo parce que je l'ai bien aimé. Alors, il est très très différent de ce qu'on a l'habitude de lire, parce qu'il y a une espèce d'ambiance un peu horreur, angoissante.
Yes.
Un mix entre Alien et puis un film d'horreur des années 50. Donc, il y a un travail sur la lumière, parce qu'il y a cette station qui semble infectée par quelque chose qui absorbe la lumière, et même les sabres laser vont se retrouver affectés. Et ça fait très science-fiction, mais j'ai beaucoup aimé cette ambiance. Alors, à la fin, on a une espèce de lican, hein. Je sais pas, ça m'a pas choqué non plus, je sais pas.
Mais ouais, c'est vrai que ça pourrait les surprendre.
Ouais.
Mais justement, je me demandais ouais, si ça, ouais, ça risque de surprendre quelques lecteurs, mais techniquement, c'est une race de l'univers.
Bah ouais, et puis je veux dire, on a un tigre oui. humanoïde, on a des personnages un peu terriens/ humanoïdes, donc pourquoi pas. Et finalement, j'ai beaucoup aimé cette histoire, là, vraiment une ambiance qui est sympa. Et donc, oui, ce deuxième épisode, pour moi, ce sera un 8 aussi. Et vraiment, j'insiste sur le travail autour de la lumière, qui est vraiment intéressant.
Ouais, je te rejoins totalement.
C'est un peu mystérieux quand on tourne les pages comme ça. Ouais.
Ah ouais. Moi, j'ai beaucoup aimé, tu parlais du pendant horrifique de cette aventure-là. J'adore tout ce qui est monstre dans Star Wars et les films de monstres en général. Hein, je me tape. Ça va du chef-d'œuvre au Dans de la Mer ou Jurassic Park jusqu'au nanar de sci-fi. Quoi. J'adore ça. Quoi. Et les films de loup-garou, pareil. Donc là, que je vois ça, j'ai ah oui, d'accord. Donc ils mettent un loup-garou dans Star Wars. L'ambiance très. Tu vois juste. En plus, c'est Lucross qui dessine, et là, un très très bon Lucross, je trouve qu'il s'est très bien appliqué. Déjà, il fait des panoramas magnifiques, dans toute cette période là où ils sont dans l'obscurité, justement, t'as juste les Googles, t'as des Jedi et les sables laser, donc qui sont. Et les écrans aussi de l'ordinateur, qui donnent cette ambiance un petit peu à la Alien aussi. Et moi, je dis de suite, c'est le numéro que j'ai préféré du tome. Et ouais, donc ce côté Louis Harou là, qui prend une page entière hein, quand il apparaît là. Moi, j'ai trouvé ça super, super kiffant. Et donc, en m'enseignant par la suite, donc, j'ai vu que c'était donc un Defel. Et un Defel, donc, c'est une race canine d'univers qui, Tom pourrait nous en parler, mais qui est apparu dès l'épisode 4, en fait. Il y a un Defel dans la cantina.
Dans la cantina, oui. Ouais. Bah, alors, je le trouve un peu différent, quand même, celui de la cantina. Bizarrement.
Ah oui, c'est assez différent. Mais c'était un costume, c'est un costume c'est pratique.
On sent bien quand même que ça se ressemble, mais c'est quand même pas nécessairement tout à fait la même chose.
Surtout que ce Defel-là, il lui est arrivé quelque chose dans l'histoire, je ne sais même plus pourquoi il est un peu possédé.
Oui, c'est ça, infecté.
Un peu incontrôlable. Infecté, ce qui le fait tuer ses collègues. Oui. Et heureusement, Obi-Wan et Qui-Gon iront le sauver. D'ailleurs, c'est marrant parce que moi, ça me rappelait aussi que j'avais croisé cette race-là dans le Legends, là, que je découvre petit à petit. Là. Et justement, Timothy Zahn l'a utilisé dans The Last Command, le troisième tome de sa trilogie de Throne, la première trilogie.
Sincèrement, je ne m'en souviens plus du tout.
Ben, je ne m'en souvenais plus dans le roman, mais c'est vrai qu'il y a des cases du comics qui adaptent ce roman-là, moi qui m'avait marqué, parce que je me rappelle encore de ces cases-là, où tu vois vraiment le Defel qui a la même propriété que dans ce comics canon-là, qui absorbe.
En fait, ça ne parle pas du tout.
Ouais, carrément. Ouais, parce qu'il est. C'est comme s'il était invisible. Il absorbe, on l'explique. Là aussi, je crois Obi-Wan le mentionne, il absorbe la lumière. Donc, qu'il rend invisible. Justement, il y a une espèce de. Il y a quelqu'un qui est dans un couloir, je ne sais plus, dans un vaisseau, je ne sais plus trop. Et c'était un Defel là. Donc, soit dans le Spectre of the Past aussi. Il faudrait que je revoie le comics, mais. Bref, non. Dans pas mal de romans et comics légendes, ils étaient là. Dans le canon, peut-être un peu moins, c'est dans Afra, je crois qu'il y avait des Defel aussi, et donc là. Donc je trouve ça très très cool d'utiliser ce genre de monstre dans Star Wars.
Ouais, voilà.
Ouais. Et il y avait aussi, je sais pas, vite fait, il mentionne le mot Sith. Obi-Wan parle de peut-être une influence Sith sur cette planète-là, sur cette station-là. Alors que c'est en mots, là, que même lui... alors c'est marrant, parce que t'as le vieil Obi-Wan version Alec Guinness, qui est un petit peu le narrateur de cette histoire, et qui dit que sur le moment, le fait de prononcer le mot Sith, bien avant l'épisode 1, hein, donc pour eux, ils ont disparu depuis des millénaires, ça lui paraît bizarre à Obi-Wan de prononcer le mot Sith de vive voix, tu vois. Et évidemment, Qui-Gon lui dit pas.
Et il n'est pas au bout de ses surprises, alors.
Voilà, c'est ça. C'est un peu le début du revival. Ouais, c'est vraiment intéressant, cette histoire.
C'est une bonne histoire. Alors, le troisième...
Et la couve... on a un peu parlé trop... Les couvertures de Phil Noto, c'est Phil Noto, donc...
Ouais, c'est ça.
Qui fait les couvertures régulières de tous les numéros, et sont toutes superbes, et celle du numéro 2 est magnifique, quoi.
Et vraiment, par exemple, là, je suis en train de montrer à la caméra la couverture de l'album, où on a les deux Obi-Wan, donc l'Obi-Wan version Guinness et l'Obi-Wan version McGregor, qui sont tous les deux vraiment très ressemblants. Enfin, c'est vraiment excellent. Enfin,
c'est super.
Alors, il y a le petit côté un peu vendeur qui te ment, puisqu'il y a Vador sur la couverture.
Ah oui, j'avais noté là-bas. C'est vrai.
Voilà, Vador n'apparaît pas dans l'épisode. Pas dans le volume.
Exactement.
Il y a un Seigneur Sith, mais c'est pas celui-là.
Voilà. Ouais, ce qui est cool, c'est que ouais, que Onoto a, ben, là c'est la couverture du tome, c'est la couverture du numéro 1 aussi, mais que ouais, qu'il utilise les deux acteurs, ça c'était très très cool, un très bon move, c'est plutôt cool. Et le style, alors, moi, ça m'a fait penser, peut-être complètement à côté de la plaque, mais moi ça me fait penser au style des affiches Star Wars de la prélogie et de la trilogie originale, mais version édition spéciale, tu sais.
Oui.
Comment il s'appelait cet artiste là qui dessinait
Drew Karpyshyan.
Drew quelque chose, ouais, Drew.
Oui, Drew Karpyshyan. Voilà. Je le suis sur Twitter, il est à la retraite, mais je le suis sur Twitter.
Donc, Harry Potter, Indiana Jones, Blade Runner, ouais, tout ça, là. Ça fait un peu ça, quoi. Donc, très photoréaliste, mais dessiné, quoi.
Ah, c'est lui qui a fait tout ça, ouais. mais elles sont toutes très bien, ces couvertures. Donc, je les ai montrées à la caméra, en fait, parce qu'elles sont insérées dans les pages. Ouais. Et vraiment, elles sont toutes magnifiques.
On n'a pas eu. Toutes très bien. Ouais.
Pourtant, je suis pas un grand fan de film moto, en tout cas pour les intérieurs. Par contre, pour les couvertures et les illustrations, je suis vraiment
Okay. Ouais, le gars est fort.
Ouais. Bon, voilà. Si tu veux passer à l'épisode d'après, la guerre des clones.
Donc ouais, voilà, donc période de la guerre des clones. Là on passe à un style un peu plus. Attends, mais d'abord le résumé. Je suis perdu dans mes notes. J'ai pas noté grand chose en fait sur ça. En fait, on est pendant la guerre des clones. Donc voilà, j'ai juste noté le côté graphique qui est très anguleux et qui correspond bien au style de l'anime The Clone Wars en plus, donc c'est cool. Donc en plus, c'est pas une période que j'apprécie plus que ça, la guerre des clones, donc je vais te laisser un petit peu plus parler sur ça. J'ai imaginé exactement par contre t'exciter sur ce numéro-là, et je me suis dit, ah ça Loïc, il va beaucoup aimer.
Exactement.
Mais en gros, c'est quoi, c'est une mission, ils partent en mission sur, je sais même plus.
Je m'en souviens pas non plus, mais globalement, ils doivent prendre un château, un bastion, qui est défendu par les séparatistes, et puis ils ont un plan qui va tourner un peu mal, puisque les séparatistes leur ont tendu un piège, et en fait, l'armée d'Obi-Wan, donc la 212e, va être absolument décimée par les forces séparatistes, alors que la première partie de la bataille, en fait, les a vus gagner, mais c'était fait exprès, hein, pour pouvoir les prendre à revers. Et en fait, ça va laisser vraiment Obi-Wan traumatisé par toutes ces pertes en fait inutiles. Mm-hmm. Et il a vraiment ce cas de conscience de se dire, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire là, quoi. Effectivement, j'ai beaucoup aimé. Alors pour moi, au niveau graphique, ça va être l'épisode le plus faible. Donc oui, il y a un côté un peu très anguleux qui va rappeler un peu Clone Wars, mais j'ai eu beaucoup de mal avec les soldats clones notamment, que j'ai trouvé assez mal fait, mais finalement j'ai réussi à dépasser ça parce que j'ai été pris par l'histoire. Il y a vraiment ce côté un peu de désespoir à un moment donné quand ça se retourne contre eux, et en fait il faut abandonner la mission, il faut abandonner des gens sur place, et c'est vraiment un dilemme et un crève-cœur pour Obi-Wan. Et j'ai trouvé que c'était très bien écrit. Vraiment, c'est vraiment, vraiment une très belle histoire. En plus, effectivement, comme je suis très, très adepte de Clone Wars, elle m'a d'autant plus parlé.
C'est ça. On a pas mal de flashbacks au tout début. Donc, je t'avoue que comme j'ai pas trop Clone Wars en tête, donc t'as des flashbacks de Geonosis, évidemment, mais t'as aussi Christophe Sis, Dan Twin et Bori. Donc ça, c'est sûrement des épisodes...
Ce sont des épisodes. Christophe Sis, c'était dans le film, mais c'est également en saison 1. Geonosis, évidemment, ils y vont quand même trois fois. Donc tout ça, ils tissent vraiment des liens avec ce qu'on a eu. Et puis, en fait, ça crée aussi la relation avec Cody.
Hein, voilà, de rien. Parce qu'on voit Cody, ça c'est cool.
Voilà, c'est Cody qui commande le bataillon à ses côtés. Donc il y a vraiment... le début de cette relation qui va être terrible à son issue, mais bon. Et en fait, on se rend compte aussi que l'armure Clone Wars d'Obi-Wan, en fait, Obi-Wan l'a pris avec, elle est sur Tatooine dans son passage, qui fait penser un peu à cette statue que vous connaissez peut-être, qui est une statue mythos de chez Sideshow, qui reprenait en fait un Obi-Wan fictif entre l'épisode 4 et l'épisode 5, qui avait un pactage sur le dos. Donc je ne sais plus si son armure apparaît dans ce pactage, mais en tout cas, il me semble qu'il y avait des notes autour de ça. Donc voilà, c'est un petit clin d'œil à ça aussi.
Ouais, c'est très sympa. C'est justement en contemplant son armure dans sa hutte qui se remémore cette histoire-là. Du coup. On voit aussi l'amiral Yularen.
Bien sûr.
Qui fait partie du squad, enfin qui commande le squad, qui envoie le squad plutôt en mission. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Moi, c'est, oui, c'est, tu le disais, hein, la fin, ben, c'est bon, c'est un numéro que j'ai un petit peu survolé, je t'avoue. Très action, hein, du coup, t'as la mission, c'est très très baston, très action. Mais sur la fin, justement, t'as le passage où t'as l'espèce de clone avec son drapeau rouge, là, qui va, oui. qui va se sacrifier. Oui. Là, par contre, très 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 émouvant. Quoi. Et tu
très,
le disais,
très,
donc,
ouais, vraiment. Ouais.
Très touchant, ouais. Obi-Wan qui est désabusé par cet excès de violence et tout, c'était très très.
Ouais, ouais. Et c'était très, vraiment très pertinent ouais. comme histoire, je trouve. Ouais. Et donc je vous confirme, hein, parce que j'ai vérifié que dans la statue Mythos d'Obi-Wan Kenobi, fictive, hein, puisqu'elle est tirée de rien du tout, juste d'un concept art, je crois, eh bien, il y a effectivement l'armure Clone Wars donc, qui l'emporte sur Tatooine, donc c'est canon. Ouais, il emporte son armure de Clone Wars. On ne sait pas d'où elle sort, hein, parce que je vois mal faire son pactage au temple et prendre son armure avant de partir, mais bon. Ça, c'est pour le détail. Alors, si tu veux passer, Jean, à l'épisode d'après.
Et oui, j'ai retrouvé mes notes, là. J'étais dans la partie review et pas dans la partie résumé. Bref, donc là, numéro 4. Numéro suivant. Donc, on avance un petit peu plus dans le temps. Juste avant l'épisode 3, hein, si on se réfère au design d'Anakin, je crois.
Ouais. En fin de guerre des clones, quoi.
Voilà, donc on est donc en compagnie d'Obi-Wan et d'Anakin. On retrouve aussi Yula Ren, donc. Et le numéro ben, fait directement référence au numéro précédent, hein, en rappelant la fameuse bataille où Obi-Wan a perdu tous ses clones.
Bah justement, en fait, il y avait un général sur place, enfin un commandant ou un capitaine,
c'est
que
ça.
Sais-je.
Commander Mekidrix, c'est ça.
Voilà, qui a été un peu abandonné par la grande armée de la République et donc qui est devenu un peu fou. Enfin, c'est pas ça. Qu'il est devenu fou, c'est qu'il est devenu désabusé et qu'il s'est laissé emporter par son esprit de vengeance. Mmh. Ouais. Ça me rappelle un peu Jabim, hein, du Légende, où on avait une histoire un peu similaire, puisque sur Jabim, on avait une bataille pendant la guerre des clones, et puis ils étaient obligés de partir en les abandonnant. Et quand Luke revenait, en fait, hein, ils se rendaient compte qu'il y avait des stigmates de l'abandon de la République. Et on est un peu dans le même ordre. Voilà.
Excellent. Ah, comme les Français, les Québécois. Hein. Non, enfin, on va pas partir dans ce débat-là. Mais c'est intéressant qu'ils aient repris un petit peu le squelette d'une histoire Legends pour le
Enfin, moi, c'est ce que ça m'a fait penser, même si c'est différent, parce que là, en fait, on a Obi-Wan qui va être celui qui est forcé d'abandonner les forces sur place et qui va faire face à ce personnage désabusé et à l'esprit vengeur. Là où, dans le Legends, on avait Obi-Wan et Anakin qui étaient les personnes qui abandonnaient, et Luke qui se confrontait en fait à l'héritage de son père et de la République. Quoi.
Voilà. Ah ouais, c'était encore plus fort, quoi, j'imagine.
Donc c'était encore plus fort. Mais, mais voilà, moi ça me fait penser à ça.
Mm-hmm. C'est ça. C'est ça. Et donc ouais, c'est le. Comment ? C'est Yula Ren donc, qui va envoyer donc, Obi-Wan et Anakin pour donc, retrouver Mekedrix, mais pas simplement pour le retrouver, pour aussi l'exécuter. Hein. Ceux qui n'enchantent pas du monde Anakin. Donc voilà. Donc ils vont se rendre sur la planète, ils vont retrouver Mekedrix, donc complètement twisté, t'as dit, et donc il va attaquer Obi-Wan dans le feu de la bataille. Anakin va devoir exécuter le commandeur Mekedrix. Donc voilà, t'as fini comme ça.
En fait, j'ai plus l'impression que c'était à Obi-Wan que ça posait problème plutôt qu'Anakin.
Et... c'est Anakin qui s'énerve, si je me rappelle bien, j'ai pas envie de le tuer. Hein.
Et justement, c'est intéressant parce qu'au final, il va y aller de sang-froid. Hein, puisque c'est oui, il va vraiment l'exécuter
vrai
sans
final,
et il a pas d'émotion lié à ça. Il dit que il voulait pas et que mais bon, une fois qu'il a agi, c'est un peu tard, mais pour moi, enfin, moi je l'ai vraiment senti comme je fais ce qu'il faut et finalement ça me dérange pas tant que ça. Enfin, c'est comme ça que moi je l'ai senti. Mais peut-être parce qu'on connaît le personnage d'Anakin.
C'est ça, Et que tu revois un petit peu ce que deviendra Anakin bien plus tard via le film. Et c'est vrai que...
C'est ça.
Moi, j'ai bien aimé aussi le petit côté... ils sont sur une espèce de planète un petit peu bayou, vaudou.
Oui, bayou, aztèque un peu.
Voilà, aztèque avec le temple. Ouais, j'ai beaucoup aimé ce cadre-là.
Ouais.
Donc, c'est assez original.
C'est quelque chose qu'on n'a pas trop
dialogues de... Non, c'est vrai. Les dialogues de fin, par contre, je t'avoue que c'était, le moment où je lisais le comics, ça m'a un peu saoulé, parce qu'il y a de longs monologues à la fin entre Mekedrix, dialogue, Obi-Wan, Anakin, tout ça, et ça dure un petit peu.
On est plus sur un épisode d'introspection plus que d'action. Donc moi, ça m'a pas dérangé. C'est vrai que je suis assez d'accord avec toi. C'était quand même un peu long à la fin parce que c'est des épisodes de 22 pages, donc ça va vite, et puis tu tapes 3 pages de dialogue et voilà. Mm-hmm. Mais je les ai quand même trouvé intéressants, ces dialogues.
Mais t'as raison. En plus,
ça construit bien l'histoire.
Carrément. Et puis suivant un numéro très branché à action, donc passer par un numéro plus herbeux, ouais, pourquoi pas, limite.
Ouais, ouais.
Non, c'était.
Donc voilà, un bon épisode, et moi j'étais content d'avoir encore une fois un tandem Anakin Obi-Wan. En plus, ouais. J'ai lu Brotherhood il n'y a pas longtemps. Donc,
oui, c'est encore dans le thème. Les dessins, par contre, moi je t'avoue que c'est ceux-là que j'ai le moins aimé du tome.
C'est vrai, moi je les ai trouvés, bon, ils ne sont pas au niveau de ce qu'on a pu voir, mais je les ai trouvés relativement corrects. Ouais. Ils ne m'ont pas dérangé.
Mais disons qu'il essaie d'être photoréaliste, enfin plus ou moins, quoi. Et j'avoue, sur quelques planches, ça faisait un petit peu valer de l'étrange, tu vois, surtout sur un avis, c'est un peu bizarre, mais bon.
Mais de toute façon, je resterai sur ce que je dis depuis déjà des années. Star Wars mérite des dessinateurs et des auteurs 5 étoiles et pas les seconds couteaux parce qu'on sait pas trop quoi leur donner, quoi.
Là, c'est même plus les seconds couteaux parce que là, sur le numéro 3, 4, 5, pas le 3, mais le 4, 5, c'est vraiment des débutants, quoi. C'est
moi, je ne les connais pas du tout. Alors après, il faut bien débuter par quelque chose. Des fois, je reprends des vieux comics et puis je me rends compte, en fait, que des histoires que j'ai lues il y a longtemps ont été dessinées par des dessinateurs d'aujourd'hui, enfin, qui sont des pointures aujourd'hui, mais à leur début, à leur démarrage, et je me dis... Oh, waouh, mais c'était vraiment pas terrible. Et quand tu regardes la production qu'ils sont capables d'avoir aujourd'hui, tu te rends compte de la progression. Donc, faut bien qu'ils commencent par quelque chose et quelque part. Mais c'est vrai que sur du Star Wars, c'est dommage.
C'est dommage. Ouais.
Pour moi, on devrait pas avoir de Star Wars un peu sous-côté, comme on peut avoir des séries Spider-Man ou Batman qui sont un peu mineures dans la continuité et qui permettrait à des dessinateurs de commencer à faire leurs armes dessus. Par contre, pour Star Wars, je trouve que c'est pas possible. Mais bon, on fait avec. Et un dernier.
Okay. Et donc le dernier, donc ça va être très très rapide au niveau résumé. Donc on est du temps de Old Ben sur Tatooine. Oui. On restera tout numéro à cette période-là. Et donc on a des Stormtroopers qui vont aller buter des Tusken. Ceux-ci vont tendre une embuscade aux Stormtroopers. Obi-Wan, lui, va se pointer juste après la bataille, va contempler les cadavres et va trouver un Stormtrooper encore vivant. Donc il va l'aider, il va l'amener chez lui, mais le Storm va se réveiller, va s'échapper des bons soins de Ben et va retourner à sa base. En gros, c'est ce qui se passe. Quoi,
c'est ça. Dans l'épisode. Donc, c'est peut-être, peut-être pas le meilleur épisode. Alors moi, je l'ai trouvé assez touchant de voir... un Obi-Wan vraiment en tant que personne qui va considérer toute vie, même si c'est la vie de son ennemi, et il n'a peut-être pas d'ailleurs toujours eu cette façon de penser à travers le temps. Donc ça m'a quand même assez plu. Niveau graphique, j'ai trouvé que c'était quand même pas terrible. Mais j'aimais bien qu'on ait un peu le côté impérial, hein, puisque, comme tu l'as dit, ça se passe très peu de temps avant l'épisode 4, finalement. Ce qui m'a dérangé dans cet épisode, c'est qu'on a le Stormtrooper quand il se réveille qui menace Obi-Wan avec le propre sabre laser d'Obi-Wan.
Je voulais discuter de ça justement avec toi parce que ça pose beaucoup de problèmes, je trouve, cette histoire.
Bah, je me dis, comme le mec va revenir à sa base et puis pas dénoncer qu'il y a un Jedi qui est perdu dans le désert.
C'est ça. Et Ben, il laisse s'échapper. Enfin, il a vu le sabre, il a utilisé quoi, le Storm a utilisé le lightsaber. Je sais pas, moi je trouve ça bien trop risqué compte tenu des enjeux de pourquoi Obi-Wan est sur Tatooine et
alors,
fait ce qu'il fait.
Dans le même temps, je vois pas Obi-Wan aller le massacrer de sang-froid pour conserver sa couverture.
Mais je sais pas, magiquement effacer sa mémoire, je sais pas.
Pourquoi pas. Ah mais ça aurait été très simple à faire, de lui effacer la mémoire avant de le déposer en fait pas loin de sa base, pourquoi pas, ça aurait été plus intéressant. Donc c'est là où on est vraiment des fois dans le comics. Et où, des fois, les auteurs de comics ne se posent pas la question de comment ça s'intègre dans la grande histoire. Et on a des fois des choses qui sont un petit peu, on dirait, en VO, out of character. Donc là, on serait out of history.
Ouais, bon.
Après, ça reste trois cases. Alors, c'est trois cases qui sont vachement impactantes, je trouve, pour mettre en danger Obi-Wan, hein, si le Stormtrooper avait décidé de tout révéler. Donc voilà, maintenant... C'est comme ça, c'est canon.
Oui, oui. Et ce qui est canon, ce qui est canon aussi, c'est le fait que t'as vu comment le tome et donc ce numéro se conclut. C'est vraiment sympa, j'ai bien aimé.
Oui.
Le fait qu'on On voit Dark Vador finalement, les pieds de Dark Vador et la cape d'Obi-Wan après le duel. Donc, d'ailleurs, la première lecture, je n'ai pas compris. Tu vois, les 3-4 dernières cases, en fait, ça jump de Tatooine à post-épisode 4. Quoi,
mais alors, moi, je m'étais fait en fait cette réflexion au tout début et je trouvais que c'était hyper intéressant. C'est que Obi-Wan en fait nous présente la tempête qui arrive, il nous parle de la tempête et on insiste beaucoup sur la tempête dans le prologue, et en fait cette tempête elle fait pas tant pour moi, hein, elle ne fait pas tant référence à la tempête de sable de Tatooine qu'à l'enchaînement des événements qui vont commencer avec l'épisode 4 pour arriver sur la fin de l'Empire, la fin des Sith, etc. Enfin, moi c'est comme ça que je l'ai perçu, et finalement cette tempête de sable n'est que l'allégorie de ce qui est en train d'arriver. Parce qu'à mon avis, on est genre 2-3 jours avant, 2-3 jours avant l'épisode 4, quoi.
Mm-hmm. Eh, ça fait sens, c'est vrai, complètement. Tu vois, j'ai pas vu cette...
C'est comme ça que moi, je l'ai vu.
Ouais, mais c'est surtout qu'il y a un numéro, je sais plus si c'est le début du 3, où tu vois le vieil Obi-Wan sentir que Luke va bientôt se faire appeler, que la guerre civile est imminente.
C'est ce que je me suis dit. Pour moi, cette tempête, c'est vraiment ce maelstrom d'événements qui va se dérouler à partir du moment où il va dire à Luke « Ah, Luke, aide-moi, il faut qu'on aille... Il faut qu'on aille libérer la princesse.
Ouais.
Et lui, il le sent.
Ah, c'est... Ouais, bien vu, bien vu.
Voilà.
Plus sûr, à la note, là.
Donc, je crois que vous l'aurez compris, chers auditeurs, on a quand même pas mal apprécié ce volume. J'ai été le premier surpris, d'accord, après la lecture. J'ai l'impression qu'en vieillissant, je commence à apprécier d'autant plus ce genre de proposition. Alors, peut-être... sur des personnages comme Obi-Wan qui me parlent un peu plus. Je sais qu'on a la même chose qui n'est pas encore sortie en français, mais sur Yoda, puisque le volume qui va sortir sur Yoda va explorer divers moments de sa vie, diverses missions. Donc je crois que ça part de la Haute République jusqu'à l'Empire contre-attaque, peut-être, enfin, ou peut-être même le retour du Jedi, je ne sais plus. Mais on a vraiment ce panel qui se développe. Et si c'est intéressant, c'est-à-dire que ça casse pas trois pattes à un canard, je veux dire, ça n'apporte rien en termes de continuité, mais je trouve qu'elles sont écrites avec le cœur. Il y a de l'émotion derrière, c'est pas juste une coquille vide, il y a des choses, il y a vraiment du contenu, même s'il est assez sommaire, et ça rajoute à Obi-Wan, un personnage que j'aime beaucoup, je trouve que ça lui rajoute vraiment une surcouche d'humanité. Et quand maintenant je regarde la série, quand je regarde Clone Wars ou quand je regarde le film, eh ben, je repense en fait à mes lectures, je repense aux comics que j'ai lus, je repense à ce que j'ai lu par exemple dans Brotherhood, et pour moi ces histoires font du sens dans l'histoire globale de ce personnage. Et donc pour moi, en ce sens-là, c'est complètement réussi.
Mais écoute, toi, je pense que tu as merveilleusement conclu cette émission-là, parce que c'est un peu ce que je pense aussi. C'est pareil, c'est un personnage que j'apprécie, mais dont je ne suis pas à fond non plus dedans. Donc, j'attendais rien du tout de ce tome. Le fait de le sortir en plus, alors il est sorti en VO par numéro lors de la diffusion de la série Obi-Wan l'année dernière, et il est sorti cette année en VF au mois de mai pour le May the 4th. Donc moi je voyais ça directement un move plus marketing commercial, quoi, plus que un travail artistique.
C'est évident, hein, on est d'accord que c'est un travail de commande. De toute façon, les travaux de Star Wars depuis ces dernières années ne sont que des travaux de commande. Et donc, oui, c'est fait pour accompagner, marketingment parlant, une sortie, mais pour autant, des fois, c'est bien fait.
Voilà, là, c'est bien fait, voilà, exactement.
Des fois, c'est fait avec le cœur.
Et voilà, c'est fait avec le cœur. Les artistes sont comme ils sont. Vous aurez des dessins que vous apprécierez, d'autres moins. Des histoires que vous apprécierez, d'autres moins. Moi, globalement, j'ai passé un bon moment. Pas inoubliable, mais ça reste un bon moment.
En fait, c'est un album que je pourrais relire assez facilement, finalement. À contrario d'autres albums que j'ai plus de mal à ouvrir, mais là, même pourquoi pas lire une ou l'autre des histoires et pas forcément refaire les 5 histoires, peut-être pas la dernière par exemple, qui me semble être la plus faible, mais vraiment, je trouve que c'est une lecture Star Wars plaisante sur laquelle on pourrait revenir de temps en temps, dire c'est vrai que ce personnage de Obi-Wan, il est quand même vraiment sympa.
Et après voilà, le personnage est ultra bien caractérisé dans chacune des histoires, chacune des périodes, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Bon, tu me diras, c'est le même auteur qui a tout écrit, donc ça...
Il pourrait être complètement
un caractère,
du personnage, voilà. je sens,
je sens
que c'est un auteur qui aime bien Obi-Wan, en fait. Enfin, c'est comme ça que je le ressens. Ouais, c'est-à-dire, on lui a commandé quelque chose, et puis, bah, ça tombe bien parce que c'est un personnage que j'aime. Mm-hmm. Et ben, je vais pouvoir raconter quelque chose que j'avais envie, pourquoi pas, de lire sur lui. Hein. Peut-être que c'est ça, tout simplement. Mm-hmm. Et ben, moi, je te mettrais un bon 15. Ah, je pense que ça vaut l'achat. Ouais. Ouais, ouais.
Oui.
Pour qui aime bien Obi-Wan. Ouais, je conseille vraiment l'achat.
Ah, pareil, bah, comme. Bah... Je sais pas si t'as fait comme moi, mais moi j'ai mis une note individuelle par numéro, et puis j'ai fait la moyenne, puis non, c'est vraiment une note globale.
C'est vraiment une note globale, ouais.
Ouais. Donc bah, moi ça me donnait un petit 14 sur la fin, mais le fait de discuter de là avec toi, notamment sur les histoires 3 et 4, moi qui m'ont moins plu, mais là tu m'as bien convaincu sur le fait de donner un petit point supplémentaire là. Donc je mettrais un petit 15.
Ouais, pour ce tome en particulier. On est raccord, donc, c'est voilà, pas souvent en comics genre.
Ouais, et puis on s'était même pas concerté avant. Tu vois, le 14, enfin, j'avais prévu de donner le point en plus, même pas sans rigoler, tu vois. Mm-hmm. Vraiment donner ce point-là. Donc, ouais, évidemment, conseiller aux fans d'Obi-Wan, moi je pense beaucoup à. C'est Mathieu qui est sur notre serveur Discord, qui est fan du personnage et qui a beaucoup apprécié cette lecture-là.
Oui. Donc, évidemment, on en a justement discuté un peu sur Discord cette semaine et j'étais content de voir que, en fait, ben, j'étais pas seul. Et je suis content de le voir avec toi aussi, Jean, de voir que ben, finalement, il y a des personnes qui ont apprécié un comic Star Wars. Ouh, alors, on n'est pas beaucoup, visiblement.
Ouais, là, ça fait quelques tomes, là, tu vois. Avec Francis, on avait du Han Solo qu'on trouvait très bien caractérisé aussi. Là, on a un Obi-Wan très bien caractérisé aussi. Donc, c'est pas oufissime. C'est pas inoubliable, mais ça reste très correct et agréable, donc ça fait le taf.
Et bizarrement, sur des albums plutôt anthologiques, celui-là est anthologique, Han Solo, ça va être sur une mini-série ou une maxi-série, puisque il y aura 10 numéros. Et finalement, c'est souvent ce qu'on leur a reproché sur ce genre d'histoire, que ça fonctionnait pas aussi bien. Mm-hmm. Et là, ben, on est en train de nous faire mentir nous-mêmes, puisque.
C'est vrai qu'au début, on se rappelle des mini-séries dès que le canon avait redémarré avec les comics, c'était pas fifou quoi.
C'était pas fifou.
Là, c'est les ongoing, là, les régulières qui tirent en longueur là, le gars épisode 5-6,
ça commence.
Ah ouais, non, faudrait qu'il passe à autre chose là. Et c'est pour ça que les mini-séries comme ça, ça nous permet de souffler, d'être à la Haute République aussi, qui est là, heureusement, qui nous permet de souffler aussi parce que ça reste relativement bon là, la Haute République. Ouais. Mais c'est vrai que les régulières en ce moment, c'est compliqué.
C'est compliqué.
Ceux qui lisent Hidden Empire en français, là, dites-nous, mais c'est chou.
Donc là, ça fait
ça. Non, mais tu fais bien, franchement, c'est limite une perte de temps. Quoi. Moi, je me force à lire pour être.
J'ai été feuilleter et lire quelques pages en VO du dernier épisode, celui où il y a un affrontement entre des grands méchants et puis les nouveaux adversaires en fait, de ces grands méchants qui ont été présentés dans ces trois crossovers. Et alors, là, pareil, j'ai trouvé que c'était totalement out of character par rapport à ces deux personnages qu'on connaît. Il y en a un, notamment, qui va utiliser un sabre laser alors qu'il exècre totalement les sabres laser, donc ça n'a vraiment aucun sens.
Aucun sens.
On est vraiment sur quelqu'un qui ne connaît pas ces personnages ou qui les tord pour que ça rentre dans son histoire, et ça ne fonctionne pas du tout. Vraiment, ça ne fonctionne pas du tout.
Et que fait le story group ? Il s'occupe que des films en fait, il se fout des comics.
Non, il s'occupe même pas des films, le story group, donc je sais pas s'il
connaît. C'est vrai qu'il s'occupe. Est-ce qu'il existe toujours le story group?
Est-ce que quelqu'un l'écoute? C'est-à-dire qu'il est peut-être là, en fait c'est un peu placardisé, ils sont dans une pièce, ils disent des choses et personne ne veut leur faire quoi que ce soit.
Ouais, alors c'est bon.
C'est terrible pour eux.
C'est ça. Bref, mais en tout cas, bonne note.
Voilà, sur ces bonnes notes, on va pouvoir conclure cet épisode de Star Wars en direct. Venez comme d'habitude en discuter avec nous. Alors c'est vrai que ça fait deux émissions qu'on a des bons avis sur les comics, mais c'est pas tous les quatre matins non plus. Donc si vous êtes plus nombreux que ça à avoir apprécié ce volume, ces histoires d'Obi-Wan, dites-le nous. C'est toujours un plaisir de pas se sentir tout seul.
Juste avant de conclure, est-ce que je voulais te demander pour ta version, ton édition française Panini, est-ce que donc à la fin après le numéro 5, est-ce qu'ils mettent encore des couvertures variantes?
Non, là il n'y en a pas. Non. Je ne sais pas d'ailleurs s'il y a eu des couvertures variantes, outre que les couvertures de Finnoto.
Si, il y en a. Le tome VO, Anna, sur la fin, mais du coup en VF.
Mais il n'y en a pas.
Il n'y en a pas.
Non. Je crois vérifier dans ma chaîne. Je me remets dans ma chaîne tout à l'heure, mais
c'est peut-être ça. Parce qu'il y a... Je me demande pourquoi, évidemment, ça va coûter un peu moins cher de pas imprimer les 4-5 pages supplémentaires, mais ouais, il doit y avoir... Je crois qu'il y a une variante par numéro.
Des fois, il y en a, des fois, il n'y en a pas. Voilà.
Dommage, c'est dommage, Panini.
Si vous êtes curieux, allez voir sur... Ah, tu sais ce qui serait bien que Panini édite, mais je ne sais pas s'il y a un public pour ça. Ce serait un volume qui reprendrait en fait les couvertures variantes de plein d'autres volumes. Ça se fait en VO, hein, ça existe. C'est des recueils en fait de couvertures variantes. Chez Marvel, ça se fait. Chez DC, ça s'est fait aussi. C'est pas fréquent, hein, mais ça arrive. Et ça pourrait être intéressant sur Star Wars parce qu'il y a vraiment de belles illustrations. Et j'irais même jusqu'au sacrilège, je veux dire, ça pourrait être permettre de découper certaines illustrations dans le volume pour pouvoir les encadrer tellement elles sont belles. Sont quand même imprimés sur du beau papier, donc ça pourrait vraiment être quelque chose de sympa. Mais je doute que ça trouve son public en France malgré tout.
C'est vrai, les artbooks, c'est un artbook de collection d'artbook.
C'est une sorte d'artbook, ça pourrait faire un truc, une espèce de tome hors série dans cette collection Star Wars, 100%. Voilà.
On sait que les fans de Star Wars sont très friands de ce genre de bouquin, mais est-ce que niveau vente, les éditeurs s'y retrouveraient? C'est une autre question.
Ça, c'est toujours le même dilemme. Hein. Déjà, nous, on ne pourra pas le savoir. C'est déjà difficile. Alors, si Panini nous a envoyé le volume, c'est que peut-être, j'imagine, j'en ai aucune information, peut-être que c'est un volume qu'il voulait absolument promouvoir et qui avait du mal à trouver son public, parce qu'on n'est pas les seuls à l'avoir reçu. Hein. Toute la blogosphère, entre guillemets, Star Wars française l'a reçu. Donc peut-être que il voulait le mettre en avant, et que surtout sur un personnage connu comme ça. Donc voilà. Et donc, comme d'habitude, rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux, venez discuter avec nous, rejoignez-nous sur le Discord, rejoignez-nous sur Twitter, venez nous laisser vos commentaires sur YouTube, abonnez-vous, la cloche pour avoir les émissions, les sorties, les premières, comme on a testé avec l'épisode musique où on a un live chat sur un épisode enregistré, donc on est sur le mix entre les deux, donc venez discuter avec nous, on aime bien discuter avec vous. Et c'est toujours un plaisir de partager notre passion. Et donc, de la part de Jean, de moi-même, merci d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct depuis plus de 20 ans, la voix du fandom Star Wars, et que la force soit avec vous.